Le journal Loïc Barrière. Le pont de Crimée partiellement détruit par une explosion. Le Maoulid, célébré ce week-end dans le monde musulman, entretien avec Anouar Bibesh, président du RMF. La première ministre française, Elisabeth Borne, attendue demain en Algérie avec la moitié de son gouvernement. Nous écouterons les explications du journaliste Faisal Metaoui. La France invite les Français présents en Iran à quitter le pays dans les plus brefs délais en raison d'un risque de détention arbitraire. Face à la répression meurtrière des manifestations en Iran, le Canada interdit son territoire à 10 000 responsables de la République islamique. Enfin, venue du Liban, la chanteuse Frida se produit demain à la Bellevilloise à Paris. Entretien dans ce journal. Une explosion spectaculaire sur le pont de Crimée, un pont vital pour l'armée russe dans sa guerre contre l'Ukraine. C'est un véhicule qui a explosé, faisant au moins 3 morts et occasionnant d'importants dégâts matériels sur 2 voies routières. Le pont qui traverse le détroit de Kerch, reliant la Crimée à la Russie, est utilisé pour le transport d'équipements militaires de l'armée russe. Elisabeth Borne à Alger demain pour concrétiser la réconciliation franco-algérienne. 16 ministres français seront du voyage. Les explications de Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
Une déclaration a été signée le 27 août 2022 après la visite du président Macron en Algérie. La deuxième visite en Algérie pour le président français, c'est une déclaration qui a été signée et qui va dans l'esprit des deux précédentes déclarations, celles de 2003 et 2012. Les deux pays renouvellent, selon cette déclaration, leur engagement à inscrire leurs relations dans une dynamique de progression irréversible à la mesure de la profondeur de leurs liens historiques et de la densité de leur coopération. Cela est écrit dans la déclaration. La déclaration prend en compte plusieurs aspects. D'abord, le dialogue politique, puisque les deux pays considèrent que le moment était venu d'évaluer les cadres existants de la coopération bilatérale. Ils ont donc décidé d'instituer un haut conseil de coopération au niveau des chefs d'État. Ce haut conseil supervisera les activités des différents mécanismes de la coopération bilatérale et donnera les grandes orientations sur les principaux axes de coopération, sur les actions concrètes de partenariat et aussi dans le cadre de l'application de cette déclaration, des visites ministérielles sont prévues entre les deux pays pour chaque secteur. Pour les questions de défense et de sécurité, les deux pays ont décidé d'instituer aussi un conseil qui se tiendra chaque 2 ans, alternativement à Paris et à Alger, selon les modalités à définir ultérieurement et donc qui abordera toutes les questions liées à la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, contre le trafic d'armes, contre la criminalité qui traverse les frontières. Pour l'histoire et la mémoire, c'est le deuxième aspect de la déclaration. Les deux pays ont décidé d'instaurer une commission conjointe d'historiens algériens et français qui seront chargés de travailler ensemble sur l'ensemble des archives de la période coloniale, puisqu'en Algérie, la période coloniale française a duré 132 ans, c'est-à-dire de 1830 jusqu'à 1962. Ce n'est pas uniquement durant la guerre de libération, parce qu'on a tendance à réduire la présence coloniale à la guerre de libération entre 1954 et 1962. Et donc cette commission travaillera avec, c'est un travail scientifique, pour aborder toutes les questions, y compris celles concernant l'ouverture et la restitution des archives. L'Algérie continue de restituer la restitution de l'ensemble des archives pris durant la période coloniale, des biens, ainsi que l'ouverture du dossier des essais nucléaires et des disparus. L'Algérie réclame l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français des années 1960 dans le Sahara algérien. Il y a un autre aspect dans la déclaration, celui de la mobilité. Et là, les deux partenaires ou les deux pays ont convenu de définir les contours d'une plus grande coopération dans ce domaine, avec pour objectif d'encourager la mobilité entre les deux pays, notamment pour les étudiants, entrepreneurs, scientifiques, universitaires, artistes, responsables d'associations sportives. Et aussi, un autre aspect dans la déclaration, c'est celui du partenariat économique de la transition énergétique. Il y a beaucoup, beaucoup d'options et d'objectifs dans cet aspect, notamment la coopération pour réussir la transition énergétique, notamment à travers une coopération dans les domaines du du gaz et de l'hydrogène. Les deux parties ont également convenu de lancer un programme de recherche d'innovation technologique sur la récupération et le traitement du gaz de torchage.
Sur la question de l'énergie, Emmanuel Macron s'était félicité que le pays aide à la diversification des approvisionnements en gaz de l'Europe.
Oui, absolument. L'Algérie est parmi les principaux fournisseurs du gaz en Europe, après la Russie, la Norvège, l'Azerbaïdjan et aussi tout récemment le Qatar. L'Algérie a toujours déclaré, selon ses responsables, qu'elle est un partenaire fiable, qu'elle va continuer à assurer l'approvisionnement du gaz naturel via les deux gazoducs qui lient le pays à l'Europe, via l'Italie et également l'Espagne, et aussi à travers donc le GNL qui est donc transporté par un navire. Et l'Algérie et beaucoup de pays européens pour renforcer leur sécurité énergétique, notamment après la crise à cause de la guerre en Ukraine et de l'application des sanctions occidentales contre la Russie. Beaucoup de pays sont tournés vers d'autres partenaires, voire d'autres fournisseurs. Dans l'Algérie, il y a eu des visites de plusieurs responsables européens ces dernières semaines, notamment italiens, allemands et français. Et donc l'Algérie continuera effectivement à fournir du gaz naturel à la France et à l'Italie et à l'Espagne et à d'autres pays européens.
Vous évoquiez la question de la mobilité. Concernant la question des visas, les deux pays sont-ils aujourd'hui sur la même longueur d'onde ?
Visiblement non. Justement, c'est un des points importants de divergence entre les deux pays. C'est vrai que dans la déclaration d'Alger, il y a des précisions par rapport à la mobilité des personnes, notamment ceux qui sont privilégiés, si vous voulez, notamment les scientifiques ou les étudiants. Mais l'Algérie, vous savez qu'elle a protesté après la décision de Paris de réduire de 50% le nombre de visas accordés aux Algériens, parce que Paris reproche à l'Algérie de ne pas rapatrier des Algériens qui sont en situation irrégulière en France, de ne pas accorder des laissez-passer consulaires. Sa décision est toujours en cours. La visite de Macron n'a pas mis fin à la décision de Paris de réduire de 50% les visas. Et cette question sera sûrement abordée lors de la cinquième session du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français qui se réunira les 9 et 10 octobre à l'occasion de la visite de la Première ministre française. Et on verra s'il y aura une décision par rapport à cette question puisque les deux pays se sont engagés, selon la déclaration d'Alger, à approfondir cette question. Et cela a été clairement dit, à convenir du meilleur moyen pour assurer une mobilité entre les deux pays, puisque l'Algérie et la France est tenue aussi, en application de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, de respecter certains engagements, notamment sur la libre circulation des personnes.
La jeunesse des deux pays sera aussi au menu de ce comité intergouvernemental de haut niveau.
Oui, parce que cela est mentionné dans le point 6 de la déclaration d'Alger. La jeunesse est en bonne place, puisque on parle d'un nouveau pacte pour la jeunesse portant sur l'ensemble de ses dimensions et se traduisant par la mise en œuvre de projets concrets, parmi lesquels la création d'un incubateur de start-up en Algérie et son appui par des structures publiques et privées d'ores et déjà développées en vue d'établir un réseau d'incubateurs de part et d'autre de la Méditerranée, le développement de la formation. L'Algérie est en attente de beaucoup de programmes de formation dans tous les domaines, notamment à travers l'intensification des coopérations universitaires et de l'enseignement supérieur dans les domaines d'avenir, dont en priorité l'économie numérique, la transition énergétique, les industries culturelles, la santé. Et donc tout ça figure en bonne place effectivement dans la coopération entre les deux pays. Il y a beaucoup d'étudiants algériens en France, leur nombre dépasse les 30 000. Et évidemment, on ne parle pas du tout, cette question est toujours ignorée, du retour, parce que beaucoup d'étudiants algériens partent étudier en France et ils ne reviennent pas en Algérie. Cela n'est pas mentionné, donc ces questions seront sûrement abordées lors de la cinquième session du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français, puisque l'Algérie toujours attend qu'il y ait la levée de la décision de réduire de 50% le nombre de visas pour les Algériens. L'Algérie est parmi les rares pays au monde qui ont un partenariat très fort avec la France et qui subit cette forme de sanction.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie, il répondait à François-Xavier de Calonne. Le Maolid, célébré ce week-end dans le monde musulman, il correspond à la naissance du prophète de l'islam, entretien avec Anouar Bibesh, président du Rassemblement des musulmans de France.
Effectivement, les musulmans à travers le monde, et en France en particulier, célèbrent de plus en plus le Maolid qui correspond à la naissance du prophète. Bien sûr, cette célébration ne correspond pas forcément aux deux grandes fêtes canoniques de l'islam, ce soit la fête d'Aïd al-Fitr qui marque la fin du mois sacré du Ramadan ou la fête d'Aïd al-Adha qui correspond également à la fête du sacrifice qui marque le pèlerinage à la Mecque. Et pourtant, le Maulid correspond à une célébration qui a une très forte symbolique pour les musulmans à travers le monde. C'est d'abord l'occasion de se remémorer la vie du prophète, une vie qui a été bien remplie par des épreuves multiples, une vie faite de sacrifices, d'efforts, d'abnégation au service de l'autre et au service de l'autre et des autres. Et deuxièmement, c'est l'occasion également de revisiter le comportement du prophète. Donc c'est l'occasion de faire le plein de l'exemplarité, si j'ose dire, puisque la vie du prophète est un modèle de modération, d'ouverture et de dialogue, et un modèle de bon comportement dans la société avec une très forte solidarité avec les plus nécessiteux et des valeurs de fraternité et d'entraide qui ont été développées par le prophète de l'islam. Et ces comportements sont tout l'inverse des démarches de séparatisme que certains veulent bien prêter à l'islam et aux musulmans. Et enfin, c'est également l'occasion de vivre des grands moments de spiritualité, des grands moments de convivialité, que ce soit au sein des familles ou dans les mosquées, dans les lieux de culte. Et je sais que pendant tout ce week-end, il y a un certain nombre d'événements et de manifestations qui sont organisées dans toutes les mosquées de France, que ce soit des conférences thématiques, des tables rondes qui vantent le modèle du prophète et le comportement du prophète. Il y a également des soirées spirituelles de prières, de chants religieux, de lecture de poèmes, et ça se termine souvent par des moments de partage et de convivialité au sein de ces mosquées.
Anouar Gbibesh, président du RMF, le Rassemblement des musulmans de France. En Iran, de nouvelles manifestations contre le pouvoir. Dans une école de Saqqez, ville natale de Mahsa Amini, des filles ont par exemple scandé « Femme, vie, liberté ». Des manifestantes ont retiré leur foulard pour l'agiter au-dessus de leur tête. Ces manifestations ont eu lieu pour la quatrième semaine. Une colère née après la mort de Mahsa Amini, décédée après son arrestation par la police des mœurs. Face à l'ampleur de la répression, le Canada a décidé d'interdire son territoire à 10 000 responsables de la République islamique. Le Premier ministre Justin Trudeau a dénoncé un régime meurtrier et barbare. Selon lui, cette mesure n'a été utilisée que dans les circonstances les plus graves contre des régimes menant des crimes de guerre ou des génocides comme en Bosnie et au Rwanda. Les Français de passage en Iran sont invités par le Quai d'Orsay à quitter le pays dans les plus brefs délais. Pour le ministère des Affaires étrangères, tout visiteur français, y compris binational, s'expose à un risque élevé d'arrestation, de détention arbitraire et de jugement inéquitable. Paris précise que ce risque concerne également les personnes effectuant une simple visite touristique. Un Palestinien tué samedi par des tirs de l'armée israélienne dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée. Il s'agit du troisième décès en 24 heures. Hier, un adolescent de 14 ans a été tué par des tirs des forces israéliennes à Qalqilia. Un autre a été tué près de la ville de Ramallah. En France, les grèves de la CGT sont reconduites chez Total Energy et ExxonMobil. Trois des six raffineries françaises sont toujours à l'arrêt ce samedi, ce qui provoque des pénuries de carburant dans les stations-service. Un concert de la chanteuse soul libanaise Frida. Il se produit dimanche soir à la Bellevilloise à Paris. Entretien.
La musique vient plutôt que d'un apprentissage ou d'un chemin un peu classique musical, elle vient d'un état d'être où je suis en position de réception et où donc j'ouvre le cœur très grand, je me connecte à ce que je sens être plus grand que moi et de là me viennent et les idées et les mélodies et même l'énergie qu'il faut pour attirer les bonnes personnes parce que je compose les chansons mais j'ai les musiciens de fous qui viennent, qui entendent ça, ça résonne avec eux et ils ajoutent leur propre magie. Donc le processus de création des chansons, je pense, c'est ce qui les distingue le plus. plutôt que le genre, parce que les genres sont très mélangés dans ce que je fais. Ça va de toutes les influences musicales qui m'ont bercée quand j'étais plus jeune, de tout ce que j'ai aimé découvrir en grandissant. Donc oui, je dirais que la spécificité de cette musique vient de l'intention qui est mise, de pourquoi on fait cette musique et ce désir de voir le monde résonner avec la joie, l'amour, la force et l'espoir qu'on essaye de raconter.
Ce qui vous anime donc, c'est l'envie de faire partager votre amour de la musique et apporter de la joie au public.
De l'amour de la vie et donc de la musique, oui. Et aussi, je pourrais, oui, c'est tout à fait ça, j'ajouterais peut-être seulement l'élément du pouvoir intérieur qu'on a aussi. C'est important parce que je pense pas qu'on va pas aller très loin si on s'imagine être des petites personnes avec des petites vies alors que nous sommes chacun d'entre nous un tourbillon de pouvoir, de force et de lumière. Donc c'est important pour moi, je me mets dans cet état d'être quand je suis sur scène pour pouvoir irradier cette énergie-là et qui forcément va réveiller la même énergie dans les gens qui sont là à créer ces moments avec nous.
Vous êtes en tournée en Europe, on va vous voir ce dimanche à la Bellevilloise à Paris, une très belle salle. Comment se passent ces concerts ?
Alors, jusqu'à là, et le crescendo continue à s'accentuer pour demain soir, je ne peux pas vous dire l'anticipation et ce qu'on ressent pour ce concert. Et jusqu'à là, chacun des concerts a été très différent des autres, dépendamment des endroits où on était, du monde qui est venu, des villes, parce que c'était dans des villes différentes. Ils étaient très différents. Et en même temps, il y a eu une chose commune qui n'a fait que se répéter et se renforcer. C'était cette communion, je dirais, qui se fait avec le public, où au bout d'un moment, et avec les musiciens, on s'est découvert des versions de chansons qu'on avait déjà jouées des dizaines de fois et tout d'un coup, elles ont pris un tout autre état d'être parce que dans le moment, on a ressenti cette énergie venue du public plutôt que celle-là. Donc ça a été, je dirais, la tournée de la co-création de l'amour.
La chanteuse libanaise Frida, elle est en concert ce dimanche soir à la Bellevilloise à Paris. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient à 23h est Marie-Noëlle Arras, co-rédactrice en chef de la revue Étoile d'encre et co-fondatrice de la maison d'édition Chèvrefeuille étoilée. Le dernier numéro de la revue a pour titre Algérie 60 ans, une émission qui sera rediffusée ce dimanche à 19h. Cette édition est terminée. Excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.